nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. D'abord un petit mot pour les enfants. L'évangile que nous venons d'entendre, qui est long, est un peu compliqué aussi. Jésus mêle dans ce passage deux événements distincts. D'une part, la destruction de la ville de Jérusalem et du temple de Jérusalem se réalisera par les armées romaines en 70 après Jésus-Christ. Et d'autre part, la fin du monde et le jugement. Ces deux événements sont mêlés dans le même récit, imbriqués l'un dans l'autre, ce qui en complique peut-être la lecture et la compréhension. Pourquoi est-ce que Jésus a mêlé ces deux événements? Tout d'abord parce que Jésus répond à une question des apôtres. Et dans la question des apôtres, les deux événements sont mêlés eux-mêmes. Ensuite, parce que la ruine de Jérusalem est ce qu'on appelle une figure, c'est-à-dire une image qui va évoquer le deuxième événement, la fin du monde et le jugement. Deux événements distincts, mais l'un doit faire penser à l'autre. Et ensuite, parce que Jésus ne veut pas satisfaire la vaine curiosité des apôtres ou la nôtre. Quelquefois, on voudrait savoir des détails précis, croustillants peut-être, sur l'origine du monde, sur la fin du monde. Mais Jésus ne veut pas satisfaire notre vaine curiosité. Il veut éclairer notre foi. Et c'est beaucoup plus important. Alors, quelle leçon peut-on tirer de ce passage, de cet évangile? Tout d'abord, de garder toujours courage et confiance parce que le Seigneur rendra la justice. Et c'est une bonne nouvelle. Oui, la justice sera rendue. Et c'est le Seigneur, lui qui est infiniment juste, qui sera le juge. Ensuite, et c'est lié évidemment à ce que nous venons de dire, nous devons faire attention à notre conduite, à bien nous conduire devant Dieu. Car si on peut mentir aux hommes, et les gens pensent que nous sommes bons alors que nous ne le sommes pas, on ne peut pas mentir à Dieu. Personne ne peut tromper Dieu, qui voit au fond de notre cœur. Et le jugement révélera qui nous sommes en vérité. Le masque tombe, si jamais il y avait un masque. Alors essayons de vivre droitement devant Dieu et devant les hommes. Et puis, troisième petite leçon, qui est liée encore à ce que nous venons de dire, préparons-nous à ce grand jour. Préparons-nous à ce grand jour par une vie sainte et aussi par un grand désir. Nous devons avoir le désir de rencontrer le Seigneur qui vient, qui nous a créés et qui nous a sauvés. Maintenant pour les plus grands. C'est pas fini. Pour bien comprendre cet évangile, il faudrait le resituer effectivement dans le passage plus long, en prenant le début du chapitre 24 de saint Matthieu. On trouve ce récit dans les trois synoptiques, hein, Matthieu, Marc et Luc. Nous aurons dimanche prochain celui de Luc. Que se passe-t-il? Jésus et les apôtres sortent du temple. Les apôtres montrent à Jésus le temple, admirable, cette bâtisse extraordinaire construite par le roi Hérode, et font remarquer la beauté de l'édifice et la richesse de son ornementation. Et c'est alors que Jésus leur annonce qu'il n'y restera pas pierre sur pierre. Les apôtres posent la question à Jésus, mais dis-nous quand cela arrivera et quand sera ton avènement? Et les deux questions liées par les apôtres. Alors Jésus va d'abord leur parler du commencement des douleurs, les versets 4 à 8 de ce chapitre, puis des persécutions, les versets 9 à 14, et ensuite il dit « Alors viendra la fin ». Et notre évangile commence à ce moment-là, juste après ces mots. « Alors viendra la fin ». Le bréviaire, autant que le missel aujourd'hui, tourne donc notre regard vers la fin du monde et le jugement dernier. L'année liturgique se termine comme elle a commencé. Et nous aurons dimanche prochain le même évangile chez saint Luc. Cette pensée grave du jugement, de la fin du monde, encadre donc toute l'année liturgique. C'est la pédagogie de l'Église. Alors, mes bien chers frères, y pensons-nous suffisamment? La fin du monde approche, et avec elle, le jugement. Je ne me promène pas dans la rue avec une cagoule et une cloche pour dire la fin du monde approche, mais c'est vrai, la fin du monde approche, et avec elle, le jugement. Tout acte, mes bien chers frères, a des conséquences. Tous nos actes ont des conséquences. La justice sera rendue, et si ce n'est pas sur la terre, ce sera après notre mort. Nous pourrions dire en quelque sorte que le jugement est la dernière réponse de Dieu au péché. Le péché provoque ce que l'Écriture sainte appelle la colère de Dieu. Alors certes, c'est un terme anthropomorphique, une manière humaine de présenter la chose, mais l'Écriture sainte nous parle presque sans cesse de cette colère de Dieu qui augmente jusqu'au moment où elle éclate. Pensons au déluge. Pensons à Sodome et Gomorre, ou pensons, à cause de l'évangile d'aujourd'hui, à la ruine de Jérusalem. Dès les premières pages de la Genèse, la mort est présentée comme le salaire du péché. Alors certes, nous le savons, et heureusement, la pénitence peut arrêter la colère de Dieu. La pénitence individuelle ou collective, on songeait à la ville de Ninive, qui s'est convertie, qui a fait pénitence, et Dieu n'a pas détruit la ville de Ninive. Alors, mes bien chers frères, pensons au jugement. Préparons-nous au jugement par une vie qui plaise à Dieu, comme saint Paul nous y exhortait dans l'épître d'aujourd'hui. Par une attitude de vigilance. Et c'est certainement la leçon principale de cette messe. Vigilance, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Car ne nous méprenons pas, mes bien chers frères. Les signes que Jésus évoque dans l'Évangile à propos de son retour glorieux, du jugement final, sont de tous les temps. Les guerres, les catastrophes, les persécutions, les hérésies, les faux messies, tout cela nous le rencontrons à toutes les époques de l'histoire de l'Église. Et c'est pourquoi souvent nous avons pu lire certains auteurs de l'Église déjà, dire ça y est, nous y sommes. Mais oui, nous y sommes. Et nous y sommes aujourd'hui encore. Les derniers temps sont commencés depuis la Pentecôte. Nous sommes à la dernière heure, comme disaient les belles et fortes épîtres de saint Jean. Oui, nous sommes à la dernière heure. Le but de Jésus est donc de nous tenir éveillés. Vigilant, prêt à la grande rencontre avec le Seigneur qui vient. On mangeait et on buvait au temps de Noé, quand le déluge a englouti les hommes pécheurs. On mangeait et on buvait au temps de Lot, quand le feu du ciel a consumé Sodome et ses habitants pervers. Alors soyons vigilants. Mais bien, chers frères, l'histoire du monde est entre les mains de Dieu, et de Dieu seul. Quand la révolte contre Dieu aura atteint son comble, quand la coupe sera pleine, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et ils verront le signe du Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec grande puissance et grande gloire. Nous l'avons entendu dans l'Évangile. Quelques versets plus haut, Jésus disait « L'iniquité abondera, la charité d'un grand nombre se refroidira. » Et cela évoque peut-être pour nous une autre parole de notre Seigneur dans l'Évangile de Saint-Luc, parole mystérieuse. Donc le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, mes bien chers frères, que ces paroles nous fassent réfléchir. Le prince de ce monde combat sans relâche le Christ et son royaume, c'est-à-dire l'Église. Le monde, qui gît au pouvoir du mauvais, préfère ses ténèbres à la lumière qui ne vient pas de lui. Il rejette non seulement la lumière surnaturelle de la foi, mais même la lumière naturelle de la droite raison. L'humanité est arrivée à un point d'endurcissement du cœur tel qu'elle ne se contente pas de justifier le péché, mais elle vient inverser le bien et le mal, ce qui est proprement diabolique. Comment, mes bien chers frères, en est-on arrivé à présenter l'avortement comme un droit fondamental, et la défense de l'enfant à naître comme un délit? Comment en est-on arrivé à présenter les pratiques homosexuelles comme une chose légitime et la dénonciation de ces actes contre nature comme un mal? Comment en est-on arrivé à nier les différences entre les hommes et les femmes au nom de l'idéologie égalitariste? Et certains vont aujourd'hui jusqu'à nier la différence de dignité entre l'homme et l'animal. Oui, ils sont devenus fous. Mais ce sont souvent les croyants qui sont montrés du doigt et regardés comme fous. C'est l'Église et son message qui passent pour enténébrés, déraisonnables et même inhumains. Alors, mes bien chers frères, restons fermes dans la foi si nous ne voulons pas être entraînés par les ruses du malin. Et entendons aujourd'hui les avertissements du Seigneur dans l'Évangile, comme adressés à nous. Ne regardons pas la fin du monde et le jugement comme des événements éloignés, irréels, mais comme cheminant à côté de nous, proches, imminents. Le Seigneur le dit à ses apôtres dans les paraboles qui suivent le passage entendu aujourd'hui. C'est à une heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.